printemps. Chapitre 15. Jamelia. Ces appartements dépassaient tout ce que Malta avait imaginé. Où qu'elle pose les yeux, elle voyait l'opulence. Les fresques sur les murs qui représentaient des forêts montaient jusqu'à un plafond bleu pâle où volaient des oiseaux et des papillons. Les tapis moelleux sous ses pieds étaient vert mousse. Un bain d'eau fumante qui coulait en fontaine faisait des bulles dans une immense baignoire bordée d'oiseaux en marbre et dissimulée derrière un écran de roseaux et de joncs en pot. Et il s'agissait seulement de sa garde-robe. Le miroir à côté de la coiffeuse était plus grand qu'elle. Elle n'avait pas la moindre idée de ce que contenait la moitié des petits pots de cosmétiques et d'onguents. Elle n'avait pas besoin de le savoir. C'était l'affaire des trois servantes qui les appliquaient sur sa peau avec un art consommé. « S'il plaît à madame, peut-elle hausser les sourcils que je souligne davantage ses yeux ?» demanda doucement l'une d'elles. Malta leva une main. « Mes yeux sont très bien comme ça, Élise. Vous avez toutes les trois fait des merveilles. » Elle n'aurait jamais cru en avoir assez un jour qu'on s'occupe d'elle, mais elle avait envie d'être un peu seule. Elle sourit dans le miroir aux trois femmes. Élise s'était rasé une partie des cheveux. Un peigne orné de verroterie rouge était planté dans sa chevelure noire pour imiter d'ingénieuse façon la crête de Malta. Les deux autres jeunes femmes s'étaient épilé les sourcils qu'elles avaient remplacés par un fard luisant composé de pétales de nacre et de colorants. L'une avait choisi le rouge en l'honneur de Malta. Les sourcils chatoyants de la seconde étaient bleus. Malta se demanda si c'était pour flatter Rain. Un autre regard dans la glace lui confirma qu'aucun fard ne pourrait leur donner un aspect aussi exotique. Malta sourit à son reflet, se plaisant à voir la lumière jouer sur ses écailles. Elle tourna lentement la tête d'un côté, puis de l'autre. « Merveilleux !» répéta-t-elle. « Vous pouvez aller. »«
Mais madame, vos bas et vos souliers... »
« Je les mettrai moi-même. Allez maintenant. Vous voulez me faire croire qu'il n'y a pas de jeunes gens impatients qui espèrent vous voir libérer plus tôt ce soir ?» Les sourires qu'elle aperçut dans le miroir lui apprirent qu'elle avait deviné juste. Un grand bal comme celui-ci mettait tout le palais du gouverneur en effervescence. On danserait dans quatre salles de bal, s'il vous plaît, une pour chaque étage de l'aristocratie. Et Malta savait que la fièvre et l'éclat de la fête s'étendraient à la salle des domestiques. Que ce soit la troisième fête en l'espace d'un mois ne paraissait pas modérer l'enthousiasme général. Personne ne voulait manquer l'occasion d'entrevoir une fois encore la belle, la svelte, la grave reine des îles des pirates, ni surtout de voir danser le couple d'anciens. De nouveaux conseillers influents et des nobles de Jamelia s'accorderait une fois de plus pour flatter et porter au nu le jeune gouverneur qui s'était si vaillamment embarqué pour l'aventure dans un monde sauvage et qui était rentré avec de nouveaux alliés de si haute prestance. Ce soir, ce serait leur dernière occasion. Demain, Rain et elle seraient en route vers le nord sur la Vivacia avec Yémin et la reine Eta. Demain, ils entreprendraient enfin leur voyage de retour au pays. Malta mit ses bas et ses petits souliers de satin blanc. En laçant le second, elle l'examina attentivement. Dire qu'elle avait pris au tragique le fait de n'avoir pas de souliers neufs lors de son premier bal. Elle se sentit désolée pour la jeune fille qu'elle avait été, tout en secouant la tête en songeant à son ignorance. Elle saisit les gants de dentelle blanche sur sa coiffeuse. Ils montaient jusqu'au coude et ils étaient fabriqués de telle sorte qu'on puisse voir au travers étinceler ses écailles rouges. Hier, l'une des servantes lui avait affirmé qu'on vendait au bazar des gants ornés d'incrustations brillantes pour imiter l'effet. Malta se regarda dans la glace avec incrédulité. Tout le monde la trouvait belle. Sa robe était blanche avec des pans cachés rouges qui apparaissaient quand Reine la faisait tourbillonner sur la piste de danse. La couturière qui avait créé la robe lui avait dit qu'elle avait vu le modèle en rêve, un rêve de dragon. Elle posa les mains sur la petite ceinture, tournoya devant le miroir et faillit tomber en essayant de tourner la tête pour apercevoir l'éclair rouge. Alors, riant de sa propre sottise, elle quitta la pièce. Quelques instants plus tard, elle frappait deux coups à une porte puis entrait hardiment.
« Etta ?»
demanda-t-elle doucement dans la pénombre.
« Je suis là, »
répondit la reine des îles des pirates. Malta traversa rapidement la chambre obscure et pénétra dans l'immense garde-robe d'Etta. Les armoires étaient ouvertes, les robes jetées sur les chaises ou par terre. Et Etta était assise en sous-vêtements devant son miroir.
« Où sont vos femmes de chambre ?»
s'enquit prudemment Malta. Yéma l'avait avertie du caractère imprévisible d'Etta. Elle-même ne l'avait jamais vue en colère, elle ne connaissait que le sombre abîme de son chagrin.
« Je les ai renvoyées, »
annonça Etta brusquement.
« Leur bavardage m'agaçait. Essayez ce parfum, laissez-nous vous coiffer comme ça. Voulez-vous la robe verte ou la bleue ? Oh non, madame, pas la noire, pas encore. Comme autant de mouettes piailleuses, elles viennent se nourrir de mon cadavre. Je les ai renvoyées. »
« Je vois, »
dit Malta calmement. Une porte s'ouvrit et Mère apparut soudain, chargée d'un plateau sur lequel était posée une théière fumante et des tasses assorties. C'était un service ravissant, blanc à fleurs bleues. Mère marmotta doucement pour saluer Malta et mit le plateau sur la coiffeuse. Ses yeux bleu pâle s'attardèrent avec tendresse sur Etta. Elle se parla à elle-même tout en versant le thé, un doux flot de paroles, aussi apaisant qu'un ronronnement de chat. Etta paraissait écouter, bien que Malta soit incapable de comprendre les sons. Alors, la reine soupira, prit la tasse et avala une petite gorgée. En dépit de son statut à la cour, Mère avait refusé titre et appartement particulier. Elle partageait la chambre d'Etta et s'occupait d'elle à toute occasion. Malta aurait été exaspérée par ses attentions constantes, mais Etta semblait en tirer réconfort. La reine des îles des pirates reposa sa tasse.
« Je vais mettre la robe noire, »
dit-elle. Mais il n'y avait que de la tristesse dans sa voix, ni colère, ni amertume. Avec un soupir, elle se tourna vers son miroir. Malta trouva la robe noire et en déploya les lignes simples. Etta la revêtait en signe de deuil de Kénith. Pour tout bijou, elle portait la petite miniature attachée à son poignet et les boucles d'oreilles qu'il lui avait offertes. Elle ne semblait pas s'apercevoir que la tragique simplicité de sa mise et de son maintien avait attiré l'intérêt de tous les poètes de Jamélia. Assise devant son miroir, elle gardait les yeux baissés sur ses mains tandis que Mère brossait ses cheveux noirs et lustrés, les relevait en les attachant avec des épingles bijoux. C'eût été quelqu'un d'autre, Etta aurait protesté, mais Mère fredonnait une petite mélodie apaisante. Quand elle eut fini, les cheveux noirs d'Etta étaient comme un ciel nocturne piqué d'étoiles scintillantes. Mère prit un flacon de parfum et lui en tapota gorge et poignet.
« Lavande, »
dit Etta à mi-voix. Sa voix se brisa.
Kénith adorait ce parfum.
Elle enfouit tout à coup la tête dans ses mains. Mère lança un regard à Malta. La vieille femme se retira dans un coin de la chambre et s'affaira à ranger les robes. Malta vint humblement l'aider. Etta leva la tête. Il n'y avait pas trace de larmes sur son visage. Elle paraissait lasse, mais elle réussit à sourire.
« Il faudrait que je m'habille. Je dois encore être la reine ce soir. »
« Yéma et Reine vont nous attendre. »
« Parfois, »
confia Etta, alors que Malta attachait les multiples petits boutons dans son dos,
« quand je suis très découragée, si je m'accorde un moment de solitude, je jure que je l'entends me parler. Il m'ordonne d'être forte, pour l'amour du fils que je porte. »
Malta bredouilla une douce approbation en apportant les bas et les souliers. Etta poursuivit à voix basse, presque rêveusement.
« La nuit, juste avant de m'endormir, j'entends souvent sa voix.
Il me parle d'amour, de poésie, il me donne de bons conseils, il m'encourage. Je jure que c'est ce qui m'empêche de devenir folle. Je sens que, d'une certaine façon, le meilleur côté de Kenny demeure avec moi, et qu'il demeurera toujours.
J'en suis sûre,
répondit Malta de bon cœur. En son fort intérieur, elle se demanda si elle serait aussi aveugle aux défauts de Rain. Le Kenneth, dont se souvenait Etta, ne correspondait pas du tout à celui qu'avait connu Malta. Elle n'avait ressenti qu'un frisson de soulagement quand elle avait vu le corps de Kenneth enveloppé de toile quitter le pont de Vivacia pour glisser sous la mer. Etta se leva. La soie noire bruit autour d'elle. Si sa grossesse ne se remarquait pas encore, tout le monde était au courant. La reine portait l'héritier du roi Kenneth. Personne ne remettait en cause son droit à gouverner, non plus qu'on ne s'interrogeait sur la jeunesse apparente de l'homme qui commandait sa flotte. Dans la tradition pirate, Yéma avait succédé à Kenneth par un vote de ses capitaines. Malta avait entendu dire que le vote avait été unanime. Yéma et Rain les attendaient au pied de l'escalier. Son frère souffrait de la comparaison avec le jeune homme des pluies. La coupe ajustée de sa veste accusait encore sa frêle constitution. La tenue jamélienne de cérémonie le faisait paraître encore plus juvénile, tant qu'on ne remarquait pas ses yeux. Alors, Etta et lui semblaient bien assortis. Comme toujours, il était en noir. Malta se demandait s'il portait le deuil en souvenir du pirate ou pour s'associer à Etta et les désigner comme un couple. Au pied de l'escalier, la reine pirate s'arrêta un instant. Malta la vit respirer comme pour s'armer de courage. Puis elle posa les doigts sur le bras que lui offrait Yéma et haussa le menton. Alors qu'elle s'éloignait d'un pas glissant au bras de Yéma, Malta fit la moue et fronça les sourcils.
« Quelque chose te tracasse ?»
demanda Rain. Il lui prit la main et la posa fermement sur son avant-bras.
« J'espère que mon frère va grandir, »
murmura-t-elle.
« Malta !»
fit-il sur un ton de reproche. Puis il sourit. Elle dut lever les yeux vers lui et la vision qu'elle eut l'enchanta. La mode jamélienne seyait assurément à Rain. Sa veste cintrée d'un bleu indigo soulignait la carrure de ses épaules. La blancheur de ses manchettes et de son col contrastait avec sa peau hâlée. Des culottes blanches et des bottes noires qui montaient aux genoux complétaient sa tenue. Il portait de petits anneaux d'or aux oreilles qui brillaient sur ses boucles sombres et lustrées. Elle sourit, pleine de compassion pour ceux qui s'étaient occupés de lui ce soir.
Il n'avait pas de patience avec les valets.
Il tourna la tête et la lumière ruissela sur ses écailles, faisant jaillir des reflets bleus. Ses yeux avaient beau être bruns, elle pouvait y discerner le bleu caché dans leur profondeur cuivrée.
« Eh bien ? »
demanda-t-il. Une légère rougeur lui colorait les joues et elle se rendit compte qu'elle le contemplait depuis un certain temps. Elle acquiesça d'un hochement de tête et ils traversèrent ensemble le hall qui s'ouvrait devant eux avec son haut plafond soutenu par des piliers de marbre. Ils passèrent sous une voûte dans la grande salle de bal. À une extrémité, les musiciens jouaient en sourdine un prélude à la danse. À l'autre bout, le gouverneur présidait aux festivités depuis un trône surélevé. Trois de ses compagnes étaient alignées sur des sièges devant son dais. Un serviteur était chargé d'alimenter deux encensoirs fixés de chaque côté du trône. La fumée jaune des herbes s'élevait en volute autour de lui. Il souriait, hochait la tête avec bénignité à ses hôtes. Un second dais abritait un trône un peu plus modeste pour la reine Etta. Elle gravit les marches comme si elle montait à l'échafaud. Un siège plus bas à côté du trône attendait Yéma. L'ordonnance des sièges destinés à Malta et à Rain avait été politiquement plus embarrassante. Le gouverneur Kosgo avait admis de mauvaise grâce que la reine Etta, en sa qualité de souveraine d'un royaume indépendant, était à la rigueur d'une stature égale à la sienne. Cependant, Malta et Rain ne prétendaient à aucune royauté. Elle répétait tranquillement que Terrilville était une ville-État indépendante et qu'elle ne prétendait pas en être la représentante.
Rain lui aussi refusait de reconnaître à Jamelia une quelconque autorité sur le désert des pluies, mais il n'était pas son ambassadeur auprès du gouverneur. Il représentait plutôt les intérêts du dragon Tintaglia et de sa race. Il n'était à l'évidence ni souverain des dragons, ni nobles étrangers, et en conséquence, il n'avait pas droit au trône, ni à une position d'éminence. Si Kosgo les avait nichés dans des fauteuils surélevés sous un dé orné de guirlandes, c'était autant pour exhiber ses nouveaux alliés exotiques que pour les honorer. Rain l'avait accepté plus facilement que Malta, dont l'esprit pratique avait prévalu sur la répugnance de Rain pour toute forme de parade. Malta ne se souciait pas de savoir pourquoi Kosgo lui avait accordé cette distinction. Il importait seulement que, aux yeux de tous les nobles, cette prééminence témoigne de leur rang élevé. Cela ne pouvait qu'accroître leur pouvoir de marchandage. Elle avait exploité ce levier au maximum. Avec la fin du monopole étouffant du gouverneur sur les exportations de Terrilville, nombreux étaient les négociants désireux d'établir de nouveaux liens avec les cités marchandes. La vogue actuelle que leur valait leur apparence exotique avait même suscité un afflux de demandes sur le commerce et les possibilités d'installation dans le désert des pluies. Rain y avait répondu avec circonspection, en rappelant qu'il ne pouvait se substituer au Conseil des pluies. Un certain nombre d'entrepreneurs et d'aventuriers avaient offert de payer très cher leur passage sur la Vivacia quand elle effectuerait son voyage de retour. Yémin s'était occupé de la question, faisant remarquer que Vivacia était le navire amiral des îles des pirates, non celui du désert des pluies. Si la Vive Nef pourvoyait au transport des anciens, elle n'était pas allouée. Il leur avait suggéré de chercher d'autres navires en partance pour Terrilville. Les serpents ne représentant plus une menace, et les Chalcédiens considérablement assagis, on prévoyait un trafic maritime accru entre les cités. Malta avait passé un long après-midi à additionner des colonnes de chiffres avec le seigneur Ferdio. Les résultats leur donnèrent à penser que les coffres du gouverneur profiteraient davantage de ce nouvel arrangement que de l'étranglement de Terrilville. L'augmentation des navires dans la passe intérieure, le libre négoce avec les îles des pirates, la multiplication des vaisseaux jaméliens qui bénéficiaient du commerce avec Terrilville et au-delà pouvaient faire sortir la ville de son déclin. Cela se passait avant que Ferdio eût commencé à reconnaître les avantages possibles qu'il pouvait retirer d'un commerce de marchandises des îles du Sud avec divers marchés du Nord. Ils avaient présenté leurs conclusions à Kosgo, qui avait souri et hoché la tête un petit moment avant de succomber à l'ennui. Le gouverneur Kosgo avait changé, songeait Malta alors qu'il s'approchait de son trône, mais pas suffisamment pour la convaincre de sa sincérité. Rendu à l'opulence et à l'aisance, aux femmes et aux drogues, il avait retrouvé toutes les affaîtries du jeune efféminé qu'elle avait rencontré à la salle du conseil des marchands de Terrilville. Pourtant, elle était disposée à croire ceux qu'il avait connus auparavant quand ils affirmaient que sa transformation était vraiment remarquable. Alors qu'elle faisait sa révérence et que Rain s'inclinait, le gouverneur pencha gravement la tête pour les saluer.
« Alors, c'est notre dernière soirée ensemble, mes amis. »«
Il faut espérer que non, » répondit Malta avec aisance. « Assurément, à l'avenir, nous reviendrons jouir des merveilles de Jamelia. Peut-être le grand seigneur gouverneur Magnadon entreprendra-t-il un jour un nouveau voyage vers Terrilville ou Troinous ?»«
Oh, ça m'en préserve. Mais si le devoir l'exige, je m'y soumettrai. » Qu'il ne soit pas dit que le gouverneur Kosgo craint les rigueurs du voyage.
Il se pencha légèrement en avant. Il eut un petit geste agacé à l'endroit du serviteur qui s'empressa de renouveler la mixture dans les brûle-parfums de cuivre. D'épaisses volutes de fumée s'élevèrent à nouveau.
« Vous êtes toujours décidé à partir demain ?»«
Décidé ?»
s'exclama Rain.
« Gouverneur Magnadon, dites plutôt « obligé ». Comme vous le savez, notre mariage a déjà été différé une fois. Nous ne pouvons guère décevoir davantage nos familles.
« Pourquoi décevoir ? Vous pourriez être marié demain, si vous vouliez, dans le temple de Sa du gouverneur. Je demanderai une centaine de prêtres pour officier, et une procession vous escorterait dans les rues. Je peux vous arranger cela, sur l'heure si vous le désirez. »
C'est une proposition des plus gracieuses, grand seigneur Magnadon. Malheureusement, nous devons refuser. Les usages marchands exigent que nous nous marions parmi les nôtres, selon nos propres coutumes. Un homme de votre culture et de votre expérience comprend sans nul doute que nous ne pouvons bafouer ces traditions sans risquer de nous voir dégradés. Les nombreux messages dont vous nous avez chargés pour les marchands de Terrilleville et de Troynous sont aussi d'une grande importance. Ils doivent être transmis sans délai. Nous n'avons pas non plus oublié les oiseaux messagers que vous nous avez fournis afin que la communication entre les cités marchandes, les îles des pirates et Jamelia soit améliorée.
Malta se mordit la joue pour réprimer un sourire. Il était heureux que le gouverneur ignore l'opinion de Yémin sur les sales bestioles puantes qu'il avait acceptées à contre-cœur à bord de Vivacia. Yola avait proposé une tourte aux pigeons pour varier l'ordinaire, mais Malta ne doutait pas que les oiseaux vivraient leur vie de messagers.
Une ombre d'irritation passa sur le visage du gouverneur.
« Vous avez obtenu ce que vous désiriez, l'indépendance de Terrilleville et du désert des pluies. Je n'avais pas plutôt signé les parchemins que vous projetiez déjà de partir. »
« Certes, grand seigneur Magnadon, car n'avez-vous pas aussi ordonné que la famille Vestrit représente les intérêts de Jamelia là-bas? C'est un devoir que je prends fort au sérieux. »
« Sans aucun doute, vous en tirerez le meilleur profit possible, »
fit-il remarquer sur un ton caustique. Il inclina la tête pour inhaler plus profondément la fumée.
« Eh bien, si nous devons nous séparer, j'espère alors que cela nous portera bonheur à tous. »
Le gouverneur s'adossa à son trône, les yeux mi-clos. Malta comprit par ce geste qu'il les congédiait, ce dont elle se félicita.
Ils gagnèrent leur siège.
Elle regarda le spectacle qu'offrait la salle de bal et s'aperçut qu'il ne lui manquerait pas. Enfin, pas immédiatement. Elle avait eu son compte de réception, de danse et d'élégance. Elle soupirait après une vie simple, retirée, sans contrainte. Pour sa part, Rhaen s'impatientait, désireux de se retrouver sur le site de la cité des anciens. L'Ophélie était récemment arrivée à Jamelia avec des lettres pour tous. Les nouvelles de Terrilleville étaient à la fois encourageantes et frustrantes. La circulation des vivres depuis Terrilleville jusqu'en amont du fleuve était régulière et suffisante. Le jeune prêtre que Yémin avait recommandé comme constructeur avait le don presque mystique de trouver des solutions simples et élégantes. Dès que les écluses provisoires qui avaient permis aux serpents de remonter par échelons le fleuve avaient été achevées, le frère de Rhaen avait reporté son attention sur les fouilles des ruines de la cité. En cela, Selden s'était montré d'un grand secours à Bendir. Jusqu'ici, il n'avait pas encore découvert de salles intactes, mais Rhaen était persuadé que son absence en était la cause. La ferveur qu'il affichait à commencer les recherches étonnait Malta. Et il poussa un petit soupir qui répondait à l'état d'esprit de sa compagne.
« Moi aussi j'ai hâte de rentrer, » lui confia-t-il.
La musique enflait. La première danse était réservée aux compagnes du gouverneur. Elles dansaient ensemble, en son honneur, et leur partenaire absent les regardait depuis l'estrade. Elle observa les femmes aux toilettes recherchées qui évoluaient sur des figures lentes. De temps à autre, le gouverneur inclinait la tête en manière de salut vers les compagnes. Malta trouvait la coutume particulièrement ridicule. Elle gâtait la bonne musique. Elle se retint de marquer la mesure avec son pied. Rhaen se pencha plus près pour être sûr d'être entendu.
« J'ai engagé deux tailleurs de pierres supplémentaires. Ils vont nous suivre sur l'Ophélie. D'après Yémin, il y a plusieurs îles dans les îles des pirates où l'on pourra se fournir en pierres à un prix raisonnable. Si nous remplaçons la charpente des écluses par de la maçonnerie, les ouvriers qui doivent constamment entretenir le bois à cause de l'eau acide seront libres. » Et on pourra créer un passage pour que les grands navires viennent s'amarrer. On transférerait alors ces ouvriers au terrassement de la cité.
« Avant ou après notre mariage ?»
demanda-t-elle gravement.
« Ah, après !»
répondit-il avec chaleur. Il lui prit la main. De son pouce, il lui caressa la paume. « Crois-tu que nos mères nous laisseraient faire autrement ? Pour ma part, je doute que nous soyons autorisés à manger et à dormir avant d'avoir supporté les cérémonies du mariage. »«
Supporter ? »
dit-elle en haussant les sourcils.
« Absolument, »
reprit-il avec un soupir.
« Mes sœurs sont au comble du ravissement. Elles vont rencontrer la reine des îles des pirates et ton séduisant frère Yémin. Tintaglia a annoncé qu'elle serait là pour nous recevoir après, m'a-t-on dit. Mes sœurs tiennent à ce que je sois voilée pour le mariage. Selon elles, peu importe que je m'exhibe à Jamélia, mais je dois être convenable et pudique pour la cérémonie traditionnelle du désert des pluies.
Ta pudeur n'a rien à voir avec la tradition,
rétorqua Malta.
Il ne lui apprenait rien qu'elle ne sût déjà.
Quand l'Ophélie avait accosté, elle avait apporté de longues lettres pour tous. La missive de Kefria avait été aussi remplie par les préparatifs du mariage.
« Je serai voilée, moi aussi. On célèbre notre acceptation aveugle l'un de l'autre. »
Une question la tracassait.
« Tu t'es enfermée longtemps avec Graktenira ? Ma mère m'écrit qu'il courtise une fille de 3 navires. C'est vrai ?»«
Lui et la fille de Pelékelter en prennent le chemin. »
« Oh, dommage. Cela veut dire, je suppose, que Tante Althea a brûlé ses vaisseaux et qu'elle devra se contenter de Brachentrell. »
Ils avaient l'air plus que contents la dernière fois que je les ai vus.
« Graktenira aurait été un meilleur parti pour elle. »«
Peut-être. À la façon dont elle m'a regardé, elle pensait sûrement que tu aurais pu mieux faire, toi aussi. »«
Elle regarde tout le monde comme ça. »
Malta écarta les réserves de sa tante.
« J'ai été surtout intéressé par les changements d'Ophélie, ou plutôt l'absence de changement. Elle est restée la même. Drac prétend qu'elle n'a aucun souvenir d'avoir été dragon, que pour elle la vie a commencé en tant qu'Ophélie. C'est vrai aussi de Duvet Doré. »«
Tu crois qu'ils s'en souviendront plus tard ?»«
Je n'en sais rien. »
Avec réticence, il ajouta.
« J'ai idée que certains dragons dans les fûts de bois sorcier ont péri avant qu'on les utilise. Ophélie et Duvet Doré, peut-être, n'ont pas de souvenirs de dragons, parce que les êtres à l'intérieur étaient morts en emportant leurs souvenirs. Il se peut qu'ils restent toujours comme ils sont aujourd'hui. »
Il marqua une pause.
Drag, au moins, en est tout heureux. Il dit que le Kendri est devenu presque impossible à gouverner. Il est amer et il ne navigue que sur ordre de Tintaglia.
Un silence tomba entre eux. Malta fit un vaillant effort pour distraire son compagnon.
« J'ai reçu un mot de Selden. Son écriture est épouvantable. Il adore le désert des pluies. Kassarik est un vrai tourment pour lui. Il veut creuser tout de suite et ton frère refuse de le laisser faire. »
Rain sourit avec ironie.
« Je me souviens que j'étais comme ça, moi aussi. »
Elle le trouva trop pensif à son gré.
Il passe beaucoup de temps avec Tintaglia à surveiller les cocons.
Elle secoua la tête.
D'après elle, ils ne sont que 53 à se développer apparemment. Il ne dit pas comment elle le sait. La pauvre, elle s'est embattue pour les guider, et ils sont si nombreux à avoir péri en chemin. Elle craint qu'ils n'éclosent pas tous. Ils auraient dû passer tout l'hiver dans leurs cocons et éclore au milieu de l'été.
Peut-être vont-ils éclore plus tard pour compenser leur retard.
Peut-être. Oh !
Elle lui tira la main.
Les compagnons finis, on va enfin pouvoir danser.
Tu ne veux pas attendre que la musique commence ?
Dit-il pour la taquiner en feignant d'hésiter à bouger.
Elle lui fit les gros yeux et il se leva.
Tu veux surtout montrer ta robe ?
Déclara-t-il gravement.
Pire, je désire montrer mon élégant partenaire à toutes ces grandes dames avant de l'enlever bien à l'abri dans le lointain désert des pluies. »
Comme toujours, ses compliments fleuris le firent rougir. Sans un mot, il la mena à la piste de danse. Les musiciens entamèrent une danse, les tambours de pierre jamaliens battant la mesure jusqu'à l'attaque des autres instruments. Rain lui prit la main et posa sa main libre sur les reins de Malta à la mode jamélienne. Elle avait expliqué à Yémin que c'était la seule façon de danser ce pas, mais elle savait qu'il désapprouverait l'audace de Rein. Ils dansèrent posément au son des tambours jusqu'à ce que les cornemuses se mettent à jouer et les fassent tournoyer. Le vertige était délicieux, car Rein la rattrapait à la fin, et ils suivirent à nouveau le rythme du tambour qui s'accélérait. Il la fit tourner une seconde fois, plus vite et en la serrant plus près.
« Tu ne regrettes pas d'attendre ?»
demanda-t-elle avec hardiesse dans l'intimité de la danse.
« Je regretterais davantage de risquer un héritier illégitime. »
La reprit-il avec sérieux. Elle roula des yeux et il fit mine d'être fâché par son impudeur.
« Est-ce qu'un homme affamé est irrité quand on prépare un festin ?»
ajouta-t-il en se rapprochant dans un nouveau tourbillon. Ils tournoyaient si près l'un de l'autre qu'elle sentit son haleine sur sa crête, ce qui provoqua cette vague de chaleur qui lui était désormais familière. Elle s'aperçut alors que, comme les autres fois, la piste s'était vidée autour d'eux. Les gens formaient un grand cercle, les autres couples s'étaient arrêtés pour regarder les anciens danser. Il la fit tourner encore, plus vite, si près que les seins de Malta frôlèrent sa poitrine.
On dit que la faim rend le repas plus savoureux, ajouta-t-il à son oreille. Je te préviens, quand nous arriverons à Terrilville, je serai comme un affamé.
Le murmure de la foule lui apprit qu'il tournait si vite que les pans rouges de sa robe flamboyaient. Elle ferma les yeux, comptant sur lui pour la maintenir dans son orbite, et elle se demanda ce qui pourrait surpasser ce moment radieux. Puis elle sourit, elle connaissait la réponse. Ce serait le moment où elle raconterait tout à Dilo.
« Ils sont beaux ensemble, »
murmura Etta. Yémin risqua vers elle un coup d'œil en biais. Elle regardait les danseurs avec une étrange avidité. Il supposa qu'elle s'imaginait dans les bras de Kenith, évoluant aussi gracieusement que Rein et Malta.
« Mais pas avec le même abandon, » conclut-il.
« Les pirates eux-mêmes avaient plus de tenue que sa sœur. »
« C'est heureux qu'ils se marient bientôt, »
fit-il observer sur un ton guindé.
« Ah, tu crois alors qu'ils ne danseront plus ?»
demanda Etta avec ironie.
Il lui adressa un sourire humble. Par intermittence, une étincelle de l'ancienne Etta transparaissait, comme un charbon rougeoyant dans un feu étouffé. « Probablement pas, » concéda-t-il. « Malta est une danseuse née. »
En regardant le visage extasié de sa sœur tandis que Rein la faisait tourner, il ajouta
« Je parie que, même après une dizaine d'enfants, elle laissera voir ses sentiments avec la même ingénuité. »« Quelle honte !»
fit Etta sèchement. Elle garda un instant le silence, puis elle finit par demander
« Est-ce qu'à Terrilville, tout le monde dédaigne la danse autant que toi ?»« Je ne dédaigne pas la danse, »
répondit-il surpris.
« J'ai appris les pas de base et on me jugeait assez gracieux avant qu'on ne m'envoie au monastère. »
Il observa quelques instants Rein et Malta.
« Ce qu'ils font n'est pas si impressionnant. C'est seulement qu'ils sont capables de danser tous les deux, vite et avec grâce, et qu'ils sont bien assortis. »
Il fronça les sourcils, puis admit.
« Et quelle robe incroyable !»« Tu crois que tu pourrais danser comme ça ?»« Avec de l'entraînement, peut-être. »
Une idée lui vint soudain à l'esprit. Il découvrit en même temps à quel point il pouvait être stupide. Il se pencha vers elle.
« Etta, que diriez-vous de danser ?»
Il lui tendit sa paume ouverte. Elle la regarda, puis détourna les yeux.
« Je ne sais pas danser, » répondit-elle avec raideur. « Je pourrais vous apprendre. Je n'y arriverai pas. Je ne ferai que m'humilier et humilier mon partenaire. »
Il s'adossa à son siège et parla tout bas pour la forcer à écouter attentivement.
« Quand vous avez peur d'échouer, vous avez peur de quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Danser est beaucoup moins difficile que lire, surtout pour une femme qui peut grimper dans le gréement sans jamais faire de faux pas.
Il attendit.
Pas maintenant, pas en public.
Il était très difficile à Etta d'avouer le moindre désir, aussi dut-elle prendre sur elle.
Mais un jour, j'aimerais apprendre à danser.
Il lui sourit.
Quand vous serez prête, je serai honorée d'être votre partenaire. Elle ajouta à voix très basse. Et j'aurai une robe qui sera encore plus belle que celle-là.
Les étoiles scintillaient d'une clarté froide dans le ciel noir. Par contraste, les lumières jaunes de Jamelia étaient chaudes, toutes proches. Leurs reflets ondulaient comme des dos de serpent sur l'eau brasillante du port. Le bruit et la musique de la fête flottaient, atténués par la distance dans la nuit fraîche de printemps. De l'autre côté du quai, Ophélie remua dans l'obscurité. C'était une vive nef à l'ancienne mode, une vieille noix un peu vulgaire. Elle agita vers Vivacia un immense cornet à dés.
« Tu joues ?»
demanda-t-elle sur un ton tentant. Vivacia se surprit à sourire à l'imposante figure de proue. Elle ne s'attendait pas à trouver si joyeuse la compagnie d'une autre vive nef, surtout d'une qui prétendait avoir perdu tout souvenir de sa vie de dragon. Ophélie n'était pas seulement de bonne compagnie, elle était aussi un véritable réservoir de ragots. Plus important encore pour Vivacia, elle relatait en détail tout ce qu'elle avait vu et entendu à Troisnous. Les berges de nidification étaient loin en amont du fleuve, hors de portée d'un navire de sa calaison. Mais Ophélie avait l'art de se mêler de tout et d'écouter avec avidité. Elle s'était ingéniée à connaître tous les faits, mais aussi toutes les rumeurs concernant le développement des serpents. Si les nouvelles qu'elle avait données étaient à la fois bonnes et mauvaises, Vivacia avait retiré une sorte de paix à connaître le sort de ces serpents. Elle était plus utile à sa race en restant à Jamelia pour le moment, mais l'attente avait été pénible à supporter. Ophélie avait compris sa soif de précision. Depuis qu'elle était arrivée à Jamelia, ses récits détaillés avaient été d'un grand réconfort pour Vivacia. Pourtant, celle-ci secoua la tête en voyant le grand cornet à dés.
Althea semble croire que tu trichais quand elle jouait avec toi,
fit-elle remarquer légèrement.
Oh, eh bien ça, c'est Althea. Gentille fille, mais un brin soupçonneuse. Pas beaucoup de jugeote avec ça. Après tout, elle a choisi ce renégat de Trelle alors qu'elle aurait pu avoir mon Grag.
Vivacia rit doucement.
Je ne pense pas que ton Grag ait jamais eu la moindre chance. Je crois plutôt qu'Ephron Vestrit avait choisi pour elle ce renégat de Trelle il y a des années.
Devant l'expression vexée d'Ophélie, elle ajouta gentiment
« Mais apparemment, elle ne lui a pas trop manqué à Grag. »
Ophélie hocha la tête avec satisfaction.
« Les humains sont obligés d'être réalistes dans ce domaine. Ils ne vivent pas si longtemps que ça, tu sais.
Tiens, son Ek.
C'est une chic fille. Elle sait empoigner la vie et en faire quelque chose. Elle me rappelle mon premier capitaine.
Ne t'attends pas à ce que je reste à terre à te faire des bébés.
Qu'elle lui a dit ici même sur mon pont.
Mes enfants vont naître sur ce navire.
Qu'elle lui a dit. Et tu sais ce que Grag lui a répondu?
Oui, chérie. Doux comme un mouton.
Il comprend qu'il vaut mieux en passer par là s'il veut avoir une famille.
Pour les humains, le temps est compté, tu vois.
C'est pour ça qu'on doit le bourrer de vie, ce temps-là.
Cette remarque venait de Jack. Son parfum flottait dans la nuit printanière. Malgré le froid, elle était pieds nus et une jupe longue tourbillonnait à ses chevilles. Elle vint se percher hardiment sur la lisse de Vivacia.
« Soir, mesdames !»
Elle respira à fond, soupira de contentement et se mit à balancer les jambes.
« Tu as été au bal ?»
demanda Ophélie avec enthousiasme.
« Raconte-nous, tu as vu le palais du gouverneur ?»«
De l'extérieur. C'était éclairé de partout, comme une maison close, des lumières dorées et de la musique qui sortait par toutes les ouvertures. Les rues étaient pleines de beaux attelages, et il y avait une grande queue de gens qui paradaient dedans, sapés comme des rois, tous. Certains se contentaient de regarder bouche bée les privilégiés, mais pas moi. » « J'ai trouvé que la course était pas mal. La musique était gaie, les hommes étaient beaux et la danse enlevée.
Il y avait des cochons entiers à la broche et des tonneaux de bière qu'ils ont percés. Un festin comme je n'en ai jamais vu dans aucune ville. N'empêche, je suis prête à partir demain. Jamais, Lia, c'est un sale endroit, malgré toutes ces belles maisons. Je serai contente de me retrouver sur l'eau et encore plus contente de revoir Partage. J'ai su tout de suite que ce serait mon port d'attache.
La ville pirate? Ça nous garde. Est-ce que quelqu'un t'y attend, mon chou?
Demanda Ophélie. Jack éclata de rire.
Ils m'attendent tous. Seulement, ils ne le savent pas encore.
Le gloussement égrillard de la vive nef fit écho à celui de Jack. Alors, elle remarqua le silence de Vivacia.
« Pourquoi es-tu si pensive, ma chérie? Il te manque, ton Yémin? Il va revenir bien assez tôt. »
Vivacia se secoua de sa rêverie.
« Non, pas Yémin. Comme tu dis, il va revenir bien assez tôt. Parfois, c'est un plaisir d'être seul avec ses pensées. Je regardais le ciel et je me souvenais. Plus tu voles haut, plus il y a d'étoiles. » Il y a là-haut des étoiles que je ne reverrai jamais. Je n'y attachais pas d'importance quand le ciel m'appartenait, mais maintenant, je ressens comme un vide.
Tu es jeune, tu vas trouver un tas de choses comme ça dans ta vie,
répondit la vieille vive nef avec condescendance.
Ça ne vaut pas qu'on s'y attarde.
Ma vie, dit Vivacia d'un ton rêveur, ma vie comme vive nef.
Elle se tourna pour considérer Ophélie avec un soupir.
« Je t'envie presque. Tu ne te souviens de rien, donc tu ne regrettes rien. »«
Je me souviens de beaucoup de choses, ma chérie. Ce n'est pas parce que mes souvenirs ont des voiles au lieu d'elles qu'il faut les écarter. »
Elle renifla.
« Et ma vie n'est pas à mépriser non plus, j'ajouterai, non plus que la tienne. Tu pourrais prendre exemple sur mon Grag. » Ne bâille pas aux étoiles quand la vaste mer est tout autour de toi. C'est un ciel à soi tout seul, tu sais. Et avec autant d'étoiles, fit remarquer Jack.
Elle sauta sur le pont et s'étira jusqu'à faire craquer ses muscles.
Bonne nuit, mesdames, je vais me coucher. Le jour commence tôt pour les marins. Et pour les vives nefs, faites beaux rêves, ma chérie,
dit Ophélie. Alors que Jack s'éloignait sans bruit, la vive nef secoua la tête.
« Écoute bien ce que je dis. Elle va le regretter si elle ne se range pas bientôt. »«
Je ne sais pas pourquoi, mais j'en doute, »
répondit Vivacia en souriant. Elle se tourna vers les lumières de la ville. Dans le palais du gouverneur, Yémin et Éta préparaient les humains au retour des dragons. Soudain, elle fut envahie de fierté en pensant à eux. Chose étonnante, elle se sentit aussi fière d'elle-même. Elle sourit à Ophélie.
Jack est trop occupé à vivre. Elle ne perd pas son temps en regrets, et moi non plus, je ne perdrai pas mon temps à ça.